Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons à Maritsou pour continuer la lecture cursive de l'Évangile de Jean. Et après avoir lu le discours après la scène, nous nous retrouvons maintenant face au récit de la Passion. Un petit rappel tout de même, ce discours après la scène, les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, développe de façon musicale, de façon quasi symphonique, plusieurs thèmes. Et notamment, Jésus montre à des disciples affolés que son départ est nécessaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour pouvoir nous envoyer l'Esprit et vraiment assurer une autre présence. C'est vraiment un grand discours dans lequel Jésus s'efface de plus en plus pour rendre possible justement cette autre présence et pour nous emmener vers le Père. Là, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Et le chapitre 17 est ce que le Père José appelait la prière éternelle de Jésus qui nous introduit dans l'immense amour du Père. Père José, vous avez souligné aussi à quel point c'était un discours trinitaire, puisqu'il y a le Père, il y a l'Esprit, avec Jésus qui s'efface une fois de plus. C'est assez étonnant et on pourrait se demander d'ailleurs comment articuler le discours après la scène avec le récit de la Passion, parce qu'en effet nous allons revenir à la violence humaine qui est présente dans le discours. Certes, les disciples sont affolés, les disciples se rendent compte que la pression, la haine est là. Et puis, cette violence humaine est un épisode littéralement sacrificiel, puisqu'il faudra écouter le verset où Caïphe dit qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, fût-il innocent. C'est un épisode véritablement sacrificiel qui sera dénoncé. C'est finalement cette violence qui va devant nous se déchaîner. Nous allons essayer de voir un petit peu ce que cela veut dire. Mais Père José, je pense que ce qui est intéressant, c'est de parler un petit peu de ce récit de la Passion qui a une caractéristique. C'est probablement un des textes les plus anciens de la mission des apôtres, très ancien et très sobre également.
Oui, c'est même, je crois, le document le plus ancien qui ait été rédigé à l'époque même de Jésus et qui est comme un noyau archaïque au cœur des évangiles. Il est à la base de ce que les évangiles vont devenir. Alors, vous avez rappelé, et c'était très important, le contexte. Et je voudrais insister ici sur le contraste extraordinaire qui existe entre la fin du discours d'après la scène, où culmine l'âme de Jésus, ce discours extraordinaire, cette révélation mystérieuse sur le mystère même de Dieu qui est amour, et ici, ce récit au centre duquel se trouve la haine. Vous avez une opposition entre l'amour et la haine, entre le discours d'après la scène et le récit de la Passion. Alors, ce récit de la Passion est en effet le morceau de texte le plus ancien, sans doute, que nous possédions sur l'événement évangélique. Et on l'a laissé tel quel. C'est un récit auquel, une fois qu'il a été rédigé, on n'y a plus touché, ou très peu. Il y a bien sûr les quatre évangiles qui en parlent, avec des nuances, mais c'est un récit qui reste primitif, sobre et pourtant radical.
Nous passons d'un discours, le discours après la scène, à un récit.
Un récit.
Vous nous avez dit, Père José, que ce discours était construit un peu comme une symphonie.
Oui.
Et vous dites que ce récit de la Passion, c'est une autre mélodie. Qu'entendez-vous par là ?
Eh bien, dans le discours d'après la scène, c'est évident que le caractère symphonique était très sensible et qu'on devait se laisser emporter par ce mouvement. Ici, le récit revient à une sorte de simplicité archaïque dont la sobriété peut étonner et qui pourtant y mêle des détails qui parfois nous alertent. Alors, une mélodie en ce sens que le rythme d'un récit est tout à fait différent de celui d'un discours. Mais ici, les faits sont relatés avec une étonnante justesse, précision et sobriété.
Avec une grande économie de moyens, autrement dit. Et apparemment, peu d'émotions.
Peu d'émotions. À la limite, il y a peu de sensibilité dans ce texte. Il nous laisse devant le fait brut et la brutalité du fait.
Alors vous avez dit tout à l'heure que dans ce récit, c'est la haine qui éclate,
oui.
C'est la violence qui se déchaîne.
Oui.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Au fond, est-ce que c'est le refus de l'autre, le refus de la vie qui déborde ? Jésus était là pour mettre les gens debout, pour faire en sorte de faire comprendre que notre vie est plus riche que nous ne pensons, que la vie nous déborde. C'est un peu ça la grâce. Et donc là, il y a une sorte de reflux de la haine contre tout cela.
Sûrement, c'est le grand affrontement entre la logique de la vie et de l'amour et celui de la haine qui détruit et qui s'autodétruit d'ailleurs. Refus de l'autre, demandez-vous. Peut-être, oui. En tout cas, c'est un refus de ce que l'homme Jésus avait en plénitude. Son humanité ouverte, offerte, et son appel à la seule réalité qui existe, qui subsiste et qu'il nous offre et qui est d'entrer dans le mystère de l'amour de Dieu. Devenir Dieu, c'est devenir des êtres d'amour.
Alors vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Père José, vous avez dit cette haine va détruire, mais elle va aussi s'auto-détruire.
Oui.
Qu'entendez-vous par là ?
Eh bien, je crois que la haine est suicidaire. La haine qui veut la mort de l'autre s'entraîne de façon suicidaire dans la mort. Dans ce combat, c'est étonnant. Ceux qui crient la haine sont des agonisants du point de vue humain.
Ils ont une force extraordinaire, une force de destruction, mais en fait, ils tombent un peu en poussière,
oui,
ils tombent dans le vide, c'est le vide, c'est la poussière ?
Oui, exactement, oui, la poussière est certainement là. Cette haine est aveugle, obstinée et aveugle, et on dirait qu'elle est provoquée même par le témoignage de l'amour. L'amour suscite la haine, ici. Et c'est finalement l'issue de ce combat, c'est que cette haine n'aura pas le dernier mot et que Jésus sur la croix a encore ce dernier mot, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La haine est évidemment fondée sur l'ignorance, l'aveuglement, mais aussi l'ignorance. C'est dénoncé d'une façon à la fois simple et subtile par ce récit.
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le thème de cette première pause musicale, Père José, que nous allons emprunter à Joseph Haydn, la première des sonates intitulée « Les sept dernières paroles du Christ en croix ».
Thank you.
sur RCF. Nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 18. Nous allons entrer dans le récit de la Passion et c'est, comme le disait le Père José il y a quelques instants, le grand affrontement, l'affrontement entre cette haine qui fait irruption et la vie et l'amour. Et vous disiez, Père José, juste avant la pause musicale, il y a quelque chose en nous qui, au fond, refuse la vie, qui refuse l'amour. Un petit peu comme s'il y avait une sorte de ressentiment en nous contre cette vie et cet amour que nous désirons paradoxalement si fort. Il y a ce grand désir et en même temps ce ressentiment.
Ce ressentiment est presque... Nous reprochons à la vie de nous avoir entraînés. Nous reprochons quelque part à quelqu'un ou à quelque chose de nous avoir mis en vie. Ça, c'est tout à fait curieux. Ça.
Nous nous sentons coupables d'être en vie ?
Oui, coupables d'être en vie. Et je crois que c'est une des premières expériences humaines, c'est d'oser croire à la vie, d'accepter de vivre et de remercier pour ce don, la vie. C'est une des conquêtes qui nous est demandée.
Oser croire à la vie, Père José, c'est vraiment une expression très précieuse. Consentir à la vie, véritablement.
Consentir, exactement. Et donc, dans le consentir, il y a le mot sentir, et donc dépasser ce ressentiment qui nous obsède. Comme éducateur, j'ai rencontré ça, des jeunes qui ne s'acceptent pas, qui n'acceptent pas d'être. En même temps qu'il y aurait un désir fou, mais qui se refuse la réponse à ce désir.
C'est tout le paradoxe de la nature humaine, c'est tout le nœud de la nature humaine finalement. Nous sommes vraiment ici au nœud du récit évangélique.
Tout à fait. Et oui, il est au cœur de ça, de ce drame.
Eh bien, je vous propose d'entrer justement dans ce chapitre 18. Je vais lire les versets 1 à 12. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'abord, il est question du lieu, c'est le jardin des Oliviers, un lieu d'intimité. Et puis, ce qui est frappant aussi, c'est de voir que Jésus est acteur. Il prend beaucoup d'initiatives jusqu'au moment où il sera ligoté. Nous verrons l'importance de tous ces mots-là. Le chapitre 18, versets 1 à 12. Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples, au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or, Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, car Jésus s'y était maintes fois réuni avec ses disciples. Il prit la tête de la cohorte et des gardes, fournis par les grands prêtres et les pharisiens, il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus le Nazoréen ». Il leur dit « C'est moi ». Or parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. À nouveau, Jésus leur demanda « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent « Jésus le Nazoréen ». Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton glaive au fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» La cohorte, avec son commandant et les gardes des Juifs, saisirent donc Jésus et ils le ligotèrent. Voilà, Père José, ça commence dans un lieu d'intimité.
Oui, c'est ça. Un jardin qui leur était familier, qui était vraiment leur rendez-vous habituel, le lieu du rendez-vous, de l'intimité, de l'amitié. Donc, nous sommes dans un contexte d'amour, de compagnonnage, et qui va être troublé, perverti, détruit par l'irruption de la haine.
Et le jardin est important au niveau biblique.
Tout à fait, tout à fait. Toutes les scènes essentielles se passent dans des jardins. Le désert et le jardin.
Le désert et le jardin.
Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le dialogue. Qui cherchez-vous ? Cherchez Dieu, cherchez Jésus est un thème important dans tout l'évangile. Et la réponse de Jésus, c'est moi, on peut l'entendre aussi, on peut le traduire par « je le suis ». Et donc, l'affirmation « je suis » Yahweh apparaît ici en filigrane. Et c'est cette affirmation « je suis » ou « c'est moi » qui désarçonne et qui trouble les assaillants.
Le texte dit « ils eurent un mouvement de recul et tombèrent ». C'est même très fort.
Oui, ils tombèrent donc, et à plusieurs reprises. Donc l'affirmation de la présence de Jésus et de son identité a quelque chose d'effrayant, en tout cas de troublant.
Il semble ici que Jésus a beaucoup d'autorité.
Oui,
mais ça commence par « sachant tout ce qui allait lui arriver, il s'avança et leur dit « qui cherchez-vous ?» etc. Et puis il y a la deuxième réponse « si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci ». Et puis finalement, il y a aussi la condamnation du geste de Pierre. Jésus est très actif et plein d'autorité ici.
Oui, Jésus est lui-même dans ce texte. Et il est lui-même dans sa force, dans son identité et dans sa liberté, dans, vous avez dit, son autorité. Cette insistance sur l'autorité de Jésus est évidemment en contraste avec la dernière phrase. Quand les assaillants se reprennent, ils veulent enlever à Jésus cette liberté et le ligoter, et le mot revient plusieurs fois dans le récit. Nous assistons au dépouillement progressif de la liberté de Jésus.
Il y a aussi un verbe qui est très fort, Père José, au verset 12. La cohorte, avec son commandant et les gardes des Juifs, saisirent donc Jésus et ils le ligotèrent. Le mot saisir est évidemment très très fort, en fait.
Les deux mots sont très forts, très forts. L'effet de contraste est important. Donc cette fois-ci, Jésus commence à perdre sa liberté, apparemment. Il va la retrouver jusque sur la croix. Mais ici, apparemment, sur le plan humain, il est nié.
Il est nié et avec toute une série de détails. Nous n'avons pas souligné cela, mais les gardes viennent avec torches, lampes et armes. Oui. Nous sommes véritablement la nuit dans un épisode de grande violence, finalement.
Tout à fait. C'est le triomphe des ténèbres.
Et ce triomphe se termine par ils saisirent Jésus et le ligotère, c'est vraiment saisir un être humain au sens très fort, véritablement l'emprisonner, l'empêcher d'être lui-même.
C'est le nier. Ah, c'est vrai que le mot de saisir est très important dans tous les sens, dans le sens négatif comme dans le sens positif. Saint Paul dit qu'il a été saisi par le Christ.
Mais il y a aussi cette tentation qui consiste à vouloir mettre la main sur l'autre.
Sûrement.
C'est le cas ici.
Tout à fait.
C'est là-dessus que nous allons vous laisser pour aujourd'hui, Père José, parce qu'il est déjà l'heure. Et nous allons en continuer dans ce récit avec la comparution de Jésus devant les autorités. Et nous vous laissons, chers auditeurs, avec Joseph Haydn, une fois de plus. Et cette fois, un extrait des sept dernières paroles du Christ dans la version oratorio. Aujourd'hui, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au revoir, à bientôt.